Merci Tiffaine, bon week-end. Écrivain, poète, chercheur, éditeur, Jean-Patrice Courtois, François Baudard, Arnaud Bertina, trois voix pour saluer celle du poète Franck Venaille, disparu le 23 août dernier.
La Compagnie des Poètes, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
Je pense que le jour où j'aurai compris pourquoi j'ai besoin de témoigner tout le temps et sans cesse sur le petit Venaille, je crois que j'aurai plus besoin d'écrire à ce moment-là. J'aurai trouvé une sorte de vérité. Pour moi, d'une certaine manière, l'imaginaire ne peut naître que du réel, qu'à partir du réel, qu'à partir d'un désaccord, d'un hiatus du réel. Ce qui implique que, dans tout ce que j'écris, la part de l'imagination pure pratiquement n'existe jamais, qu'il s'agit toujours de restituer des moments de la vie qui ont ensuite été détournés, nourris de fantasmes.
Bonjour, bienvenue à tous les trois, Arnaud Bertina, Jean-Patrice Courtois, François Baudard, pour commencer cette nouvelle saison, saison 4. Poésie ainsi de suite devient la Compagnie des Poètes, mais consacre toujours son heure à la poésie comme elle veut. Une rentrée qui s'ouvre sur la voix de Franck Venaille, c'était au micro de Jean Dève en mars 1976, sur les ondes de France Culture. Franck Venaille, né François Venaille, en 36, Paris 11e, et ça a son importance, disparu jeudi dernier à l'âge de 81 ans, 60 ans à peu près d'écriture, un grand prix de l'Académie française en 2011, un prix Goncourt de la poésie en 2017, ça c'était pour Requiem de guerre, une quarantaine d'ouvrages, poésie, récits, essais, livrets d'opéra même, revues, émissions de radio, beaucoup, ici même à France Culture, où il fut producteur notamment dans les Nuits Magnétiques. Et puis des blessures irréparables, celle de l'enfance, celle à 20 ans de la guerre d'Algérie, celle du Parti communiste, celle de la maladie, plus tard, le goût de la solitude, des Flandres, de Pierre-Jean Jouve, du jazz, de Berg, de Mozart, de Bussy, du cinéma bien noir, de l'hyperréalisme en peinture, des femmes, des origines, du football et des stades. 60 ans d'écriture, donc en quête d'intériorité. Qu'est-ce que c'est que ce vécu dont il parle, là, qu'on vient juste de l'entendre dans cette archive, quelque chose qui ne serait là que pour trouver forme dans la littérature, pour entrer dans les livres, Arnaud Bertina.
Peut-être une toute petite réaction à la présentation que vous venez de faire, qui est de fait très très parlante, c'est-à-dire l'ampleur de ses passions, l'ampleur de ce qui pouvait résonner dans son travail et donc l'ampleur aussi de son œuvre, maintenant qu'elle est d'une certaine manière close, elle est rare cette ampleur-là. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents, c'est-à-dire que, alors évidemment c'est facile d'être un peu emphatique au moment du décès de Venaille, mais il y a quelque chose un peu d'un géant dans cette ampleur-là, ne serait-ce que déjà avant de parler de la qualité de cette œuvre, mais déjà dans la capacité à embrasser autant de choses, à mettre sur le même plan Alban Berg et un stade de foot, et de le faire sans aucun ni snobisme ni affectation, quoi. Il y a beaucoup de passages de lui où justement il explique en quoi il arrive à mettre tout ça sur le même plan. Pour moi, ça le met sur le même plan que quantité d'auteurs que l'on connaît bien et qui qui ont été des sortes de géants par leur capacité, pareil, à embrasser la totalité de leur temps.
Pensez à qui ?
Pardon, ça fait un peu cliché, mais je ne sais pas, à Victor Hugo, par exemple, c'est-à-dire à cette capacité-là à d'abord à aller au plus pro, au plus noir de certaines visions, à aller au plus grand de la colère, mais aussi à se saisir pleinement de l'époque. Alors, il parle beaucoup de nostalgie, il parle beaucoup du passé, il parle beaucoup de l'enfance, et en même temps, cette espèce de goût incroyable pour être aussi pleinement son propre contemporain, et pas produire une littérature du passé.
Puisqu'il parle de son enfance, justement, de quoi serait fait ce jeu que Venaille ne cesse d'exposer, hein, donc de l'apprenti foudroyé à peu près un requiem de guerre, en passant par la guerre d'Algérie, et même d'ailleurs dans Écrire contre le père. Est-ce que c'est un jeu qui est incontestablement autobiographique ? Est-ce que c'est un jeu qui se joue de l'autobiographie ? Jean-Patrice Courtois ?
Et je dirais que c'est un jeu pour lequel il est peut-être utile de revenir à cette distinction de Winnicott, le psychanalyste, entre playing et game. Game, c'est le jeu avec lequel on joue, le jeu vidéo ou le jeu de cartes, par exemple. Mais le playing, du verbe évidemment play, c'est le jeu des enfants, justement. Et c'est pourquoi je repasse par là. C'est-à-dire, c'est le fameux sérieux du jeu des enfants, du comme si. Tu vas faire l'Indien et je ferai le cow-boy. Tu vas faire ceci et tu seras cela. Et à ce moment-là, on l'est vraiment. Et ça rejoint, je crois, à ce moment-là, l'archive que nous avons entendue tout à l'heure sur l'absence d'imaginaire pur dont ils se revendiquent et la capacité à, au contraire, enserrer le réel de toutes les manières possibles pour pouvoir le faire venir à la table. Parce que dans le fond, c'est ça le problème. Hein. C'est-à-dire que ce que tu as dit, Arnaud, est d'autant plus important que je suis frappé en t'entendant aussi d'une chose. C'est que cette ampleur dont tu parlais, cette ampleur vient évidemment de l'enfance, mais aussi quelque chose qu'il faut dire d'entrée de jeu. Quand on a cité, comme vous l'avez fait, toute cette ampleur et tous ces motif, je dirais, pour prendre un mot musical.
Ou ces obsessions.
Voilà, football, Flandre, opéra, Trieste, Londres et le jardin de Kew, Sabah, Jouve, Pierre Morange, etc., etc. Ce n'est pas à proprement parler quelque chose qui est dans le champ habituel de ce qu'on appelle poésie. Or, il est poète. Et ce qui me frappait en écoutant tout cela, c'est à quel point il y a un romanesque chez lui. Et à quel point on pourrait le comparer à quelque chose qui serait plutôt de l'ordre d'un romanesque. D'ailleurs, l'imaginaire est plutôt un terme qu'emploieraient ceux qui pratiqueraient le récit ou le romanesque plutôt que les poètes contemporains d'aujourd'hui. Mais c'est ce que tu as dit, Arnaud, il essaye d'être son contemporain et non pas forcément le contemporain des autres ou de ce moment précis.
Ce petit Venaille auquel il a recours, on l'a entendu dans l'archive, peut-être quelques mots hein, pour qu'on sache un peu mieux qui était Franck Venaille, d'où vient justement ce petit Venaille, de quoi est-il fait, ce petit Venaille qu'il va traquer d'ailleurs dans L'Enfant Rouge, qui est le texte qui va paraître début octobre, hein, le 4 octobre, son dernier texte, son ultime texte qui paraît au Mercure de France. Donc cet enfant né une première fois, on va dire, dans le 11e arrondissement à Paris, hein, qu'il va décrire cet enfant comme un enfant maigre, maladif, et déjà averti, très averti de la noisseur du monde, hein, lui qui se disait né blessé. Qui est-il, hein, ce petit Venaille, François Baudard ?
Qui est-il ? Je ne le sais pas, et je ne sais pas si Franck lui-même le savait. Je pense que toute son œuvre, on a parlé de son amour, pour, que ce soit pour le football, pour les opéras, etc. C'est la même œuvre. Et cette œuvre tourne autour d'une obsession, c'est la pureté de l'enfant qui vient de naître. Et dès que cet enfant commence à respirer, il est d'une certaine façon menacé et malade de la vie. Et j'ai relu pour les besoins de l'émission le petit livre que nous avions fait chez Jean-Michel Place, et j'ai été frappé par un oubli majeur que j'ai fait, c'est que Franck s'inscrit absolument dans le projet de Rousseau des Confessions. Si vous vous souvenez, le début des Confessions, Rousseau dit qu'il veut écrire pour une entreprise, pour ses semblables, pour leur montrer un homme dans la vérité de sa nature. Cet homme, c'est moi, moi seul. Toute l'œuvre de Franck, c'est ça. Franck parle de lui tout le temps, parce qu'à travers lui, évidemment, c'est l'humanité qui parle et qui est sans cesse à la recherche de cette pureté initiale qui, évidemment, est une chose impossible, puisque nous sommes blessés sans cesse et lui, la vie, l'a particulièrement blessé. Voilà, donc je crois que c'est le point nodal pour approcher le travail de Franck, parce que par ailleurs, c'est quelqu'un qui avait, si on reste un peu en superficie, on a l'impression que c'est un homme qui dit « Aïe, j'ai mal ici, j'ai mal là ». Pas du tout. Franck, c'était un homme extrêmement vivant, et malgré la maladie, il a eu un cran incroyable de rester toujours vivant. Et c'est un homme qui avait beaucoup d'humour. J'ai revu récemment je crois que c'est sur YouTube, où il est interrogé par Jean-Baptiste Parra, et Parra lui parle de l'humour, et Franck dit « Oui, l'humour, ça compte pour moi, par exemple, je me regarde dans une glace et je me fais rire. » Voilà, mais ça dit beaucoup de ce qu'est l'œuvre de Franck. Donc il ne faut pas prendre de premier abord comme une déploration, une déréliction perpétuelle. Pas du tout, c'est un motif. Et puis peut-être on reviendra sur le dandysme de Franck, qui est une notion positive.
Ah, mais je vous en prie.
Et cette fascination pour la douleur, pour le mal, pour le péché, c'est une position dandy. Et c'est ça qui va nourrir toute son œuvre et toute sa vie.
Victor Hugo, Rousseau, Jean-Patrice Courtois.
Oui, le rapport à la vérité de Rousseau me paraît tout à fait juste. Et je crois que un des biais, pour prolonger ce qui vient d'être dit, l'humour, ce serait peut-être une des façons de faire que la pureté ne vous envahisse pas complètement non plus, et qu'une part de vérité de cette face-à-face avec la pureté puisse être tenue. Hein. Je donnerais, moi, en relisant Franck, je dirais deux petites idées de ce que peut être son humour, sinon l'humour, c'est tellement vaste et gigantesque qu'on n'y arriverait pas. Je dirais premièrement, l'humour, c'est d'être capable de devancer l'appel, et il a beaucoup écrit sur sa propre mort, hein. Donc c'est ça que j'appelle devancer l'appel. Et puis deuxièmement, je dirais, ce qui rejoint son élégance et son dandysme, je dirais, préempter le point de vue qui ne vous est pas favorable. Hein, c'est cela. Regarder dans la glace et se faire rire, ça rejoint d'ailleurs son portrait de Carlo Emilio Gadda, très surprenant et magnifique dans Écrire contre le père, dans lequel il le qualifie de un triste qui fait rire. Et évidemment, disant de Gadda un triste qui fait rire, on ne peut que penser que c'est un autoportrait, bien entendu, comme il le fait avec Jouve et comme il le fait avec tant d'autres, La Forgue, Saba et tous ceux qu'il a vénérés parmi tant d'autres.
Pour appuyer ce que vient de dire Jean-Patrice, quand il dit un triste qui fait rire, il y a au début de ça, il y a ce vers, ils sont la force, ils sont la puissance. Ils ne fuient pas dans le remords, la mauvaise conscience, ils sont lucides et savent que la grandeur est passée. Deux points, au revoir grandeur. Et donc là, ils savent que la grandeur est passée, il y a quelque chose de très majestueux, de très littéraire, et c'est une sorte de vision qui peut serrer le cœur. En revanche, le deux points, au revoir grandeur, là, il y a une trace d'humour, quoi. C'est-à-dire, il y a au contraire quelque chose de très prosaïque, peut-être un peu gamin, etc., quoi. Donc au moment même où il nous serre le cœur, immédiatement, il y a une formule qui va désamorcer la chose, qui va lui retirer son vernis très littéraire, et qui va même presque introduire une forme de maladresse amusée, quoi. Et ça, ce type-là de décrochage et d'humour, effectivement, il est permanent dans le travail de Venaille.
Oui, je crois qu'on n'a jamais été aussi proche dans la littérature contemporaine de la fameuse formule de Chris Marker, l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et je pense que Franck correspond tout à fait à cette formulation.
Alors, avant d'en venir à ce que Venaille vous a fait, à vous trois, la parole est à Venaille. Hein. C'était en 1998, pour le bon plaisir, toujours sur France Culture, au micro de Mathieu Bénezet. Le temps de quelques jours en Flandre, un bon plaisir remonté, resserré par notre réalisateur François Connac.
J'ai marché pendant 55 ans peut-être, dans la vie, un glaive à la main. J'avais l'impression que je tuais les gens, que je frappais les gens, mais c'était moi que je frappais. Alors maintenant j'en ai assez. Donc comme j'ai plus spécialement envie de frapper les gens, je suis peut-être dans un état de paix, de tranquillité.
« Le bon plaisir de Franck Venaille par Mathieu Bénézet. Réalisation Jean-Claude Loiseau.
Et maintenant, je commence à considérer que je suis peut-être essentiellement avant tout le poète Franck Venaille, par ailleurs écrivain. Mais je commence à... Oui, c'est voilà quelque chose de positif et de plaisant, ne plus se faire la guerre à soi-même, parce qu'au fond, faire la guerre à la poésie, c'était se faire, encore une fois faire la guerre à soi-même.
Ostende, promenade Léopold II, café.
Je pense soudainement que ce qu'on vient d'entendre à l'instant, c'est-à-dire le cri des mouettes, ce que j'ai appelé le cra dans divers livres, le langage du cra, c'est pas une sorte de métaphore de la poésie et de l'écriture. C'est-à-dire passer du trop plein, au silence et au calme, et à la nudité. On est passé des cris, des criaillements, des bruits, de l'effervescence, du bruit des ailes. Alors ça serait à rapprocher à un afflux de langage, plutôt une prose assez lyrique, assez chargée. Et puis ça s'est amenuisé, ça s'est diminué, ça s'est un peu enfoncé dans le sable, dirait-on. Et à la fin, il ne restait plus que quelque chose qui ressemblait à un râle ou un soupir, amoureux. Et ça a été effacé, dirait-on, par le silence qui est intervenu, qui a pris possession, qui s'est installé. Et je pensais qu'un poème ressemblait à ce qu'on venait d'entendre. En fait, je m'interroge depuis longtemps sur le blanc.
Franck Venaille, j'aimerais que vous me lisiez quelques lignes qui sont extraites d'un texte de vous intitulé « Les enfants gâtés », qui est une postface au livre de Cyril Connelly, « Les diplomates disparus ».
Je voudrais d'abord dire que c'est le seul livre où j'ai joué le jeu jusqu'à fond, c'est-à-dire que sur la couverture, il est indiqué Franck Venaille est né en 1936 à Ostende, dans un milieu flamand d'expression francophone, et a publié depuis 61 une vingtaine de livres. C'est la seule fois, à ma connaissance, et je suis quand même bien placé pour le savoir, que j'affirmais aussi clairement un mensonge, qui n'en est peut-être pas un, enfin on pourra éventuellement y réfléchir. Alors le texte. À leur étrange manière, ce sont peut-être les poètes qui l'aimaient qui peuvent nous en dire le plus sur les raisons de la trahison. Renvoyez chez eux vos interrogateurs à visage de bœuf. C'est de l'esprit qu'il est question, ici. Cela ne servira à rien de découper les chairs. Je pense à l'inquiétude des enfants gâtés. Je vois bien qu'aussitôt certains haussent les épaules, je n'ai pas de preuves. Tout au plus puis-je avancer ce qui ressemble à des intuitions. Mais de quel droit s'exprime donc cet homme, se met à hurler la plus bornée des sentinelles. Elle a raison, je ne sais rien. Je veux juste me souvenir que lorsque je vendais l'humanité à la criée, j'eusse éclaté de rire si une bonne âme était venue me proposer de passer dans l'illégalité et d'abandonner mon poste pourtant combien dérisoire. Voici la paix des hommes morts. Ils ont connu les tentations et les replis sur soi, l'espièglerie, les combats de la chair, la violence intime et parfois sociale, la joie étrange que l'on ressent à se faire mal, le goût de vivre dans le mensonge, le plaisir de se savoir différent, la farce ludique et bientôt criminelle, le désespoir, l'abandon, la honte et la reconnaissance officielle. Mais MacLean tremblait-il encore au bout, disons, de 5 ans passés en Union soviétique? Philby bégayait-il toujours? Pourquoi Borges n'a-t-il jamais trouvé le repos en URSS? Il se fait un grand silence. Les figurants, eux aussi, cachent leur visage dans leur cape. Ne demeure sur scène que le bouffon, qui, sans arrêt, avec l'obstination des idiots, demande « Pourquoi ?» avant, détail prévu par le metteur en scène, de disparaître dans la trappe. Ça fait des années que j'avais pas relu ce texte. Mais je trouve que c'est pas mal parce que y a tout dedans. La joie étrange que l'on ressent à se faire mal. Le goût de vivre dans le mensonge. La farce ludique, le désespoir, l'abandon, la honte. C'est bien moi. Il s'agit évidemment des trois célèbres sessions britanniques qui ont travaillé au service de l'Union soviétique pendant des années.
Frank Venaille, quand vous dites dans ce texte « Les enfants gâtés », il y a tout de mon écriture. En même temps, vous parlez de mensonges et le texte que vous avez lu portait sur la trahison politique. Est-ce qu'il y a un lien pour vous consubstantiel entre l'écriture et la trahison ? Vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre, ou vis-à-vis, disons, du réel.
Moi, je crois que la vie elle-même est une trahison. Parce que je pense qu'on a été floué dès l'enfance. Lorsqu'on arrive, il me semble qu'on a très probablement des illusions, des espérances, des espoirs, et que tout ça est laminé, broyé, d'emblée, par la vie elle-même. La vie sociale, la vie familiale, la vie mentale. Moi, je crois vraiment que le moment le plus terrible pour un être humain, c'est l'état de fœtus. Et je crois que tout se joue là. Et j'ai l'impression que l'écriture, c'est ce moment justement où on est un fœtus, où on a peur et envie de sortir de ce souterrain liquide. Et on ne nous en donne pas vraiment les moyens. Puis ensuite, on sort, on est expulsé. Donc on découvre le monde et sa dureté. Et j'ai l'impression que c'est pendant ces 9 mois, pendant cette période de gestation, on est tout et on est rien, que l'écriture se forme en nous et qu'ensuite, après un très long moment, un grand espace de temps, on retrouve cet état mental pour... avec les mots, cette fois-ci. Je dois mentir sans arrêt pour retrouver la vérité essentielle, qui serait quelque part dans un lieu tout à fait assez indéfini. Moi, pendant longtemps, j'ai situé le lieu de la vérité ici, là, à Ostende. On est sur la jetée. Il fait un temps qui me correspond bien mieux. Il pleut, il fait gris. Pour employer une image un peu à cliché, le ciel et la mer ont la même teinte. Enfin, c'est vraiment tout ce que j'aime ici. Et j'ai l'impression que c'est le lieu du mensonge originel. Et que c'est là que je suis né. Il serait peut-être temps de dire que le grand mensonge pour moi, c'est d'avoir inventé un jour, poussé par je ne sais quelle force intérieure, que j'étais né à Ostende, non pas d'un homme et d'une femme, mais de la rencontre entre les éléments... appelons-les cosmiques, c'est-à-dire la mer et le sable. Et donc je suis né ici sans géniteur. Et pour moi, c'est ce mensonge suprême, c'est la vérité suprême, c'est la liberté. Se dire qu'on est né de soi, on est des forces telluriques, enfin des forces de la nature, et qu'on n'est pas passé par une rencontre physique un peu modeste entre ceux qui furent notre père et notre mère. Moi, j'ai été hanté pendant des années par une question toute simple. Comment suis-je né ? Comment ai-je été fait ? Est-ce que j'ai été fait dans le bonheur, dans la joie sexuelle ? Est-ce qu'il y a eu un plaisir de la rencontre entre mes géniteurs ? Et d'après ce que je crois savoir de ma famille, de leur vie, de la vie de mon père et de ma mère que je respecte infiniment, j'ai l'impression que ça ne s'est pas passé vraiment dans la joie, ni dans le bonheur, ni dans le plaisir. Et cette espèce de poids que j'ai parfois sur les épaules, je suis sûr qu'il vient de là. Je suis né d'une rencontre un peu hasardeuse, alors que j'aurais voulu naître dans la beauté, dans l'érotisme le plus total, je crois pas. En même temps, j'ai pas le droit de dire ça, parce que j'étais pas témoin, même si bizarrement on peut penser aussi qu'on assiste aussi à cette scène.
L'écrivain, le poète Frank Venaille, c'est celui qui s'empare quand même du nom familial. Qu'on vous connaisse des frères, des sœurs ou une fille, finalement, ça n'a peu d'importance. Je ne sais même pas si vous avez fait des frères ou des sœurs.
Moi, je sais que j'ai une famille. Et j'ai beaucoup souffert. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé un jour d'être né à Ostende. Parce que dans ma famille, on s'appelle Carré, Jourdain, Duval, Buchillet, Perrins. Que des noms, j'allais dire banalement, mais aussi honnêtement français, et qui faisaient que le poids de cette langue française, de cette culture française, de cette histoire française, était terriblement pesant pour moi. Et donc je crois que j'ai voulu, par une espèce de coup d'éclat comme ça, personnel, me soustraire à cette influence que je, à tort ou à raison, je trouve néfaste. D'où l'emploi d'un pseudonyme, par exemple, pendant quelques années, Lou Bernardo. Et d'où maintenant, d'où le changement de mon prénom, très jeune, à 18 ans.
Vous avez déclaré un jour, et vous étiez au Canada, c'est un texte que vous avez lu au Canada, « En quelle langue ai-je écrit mes livres ? Mais en Venaille, tout simplement. » Donc, c'est pas Frank Venaille, c'est Venaille. Venaille avec un bas de casse, comme on dit en imprimerie, c'est-à-dire comme, écrit comme un nom commun. Donc, ce nom familial, ce patronyme familial, vous le captez complètement.
Oui, ça fait partie des contradictions. Mais en fait, c'est légèrement différent. Là, c'était pour dire, c'était à l'étranger, c'était au Québec, je me souviens très bien. Et ça avait beaucoup choqué les auditeurs. Qui vivent dans le respect et la défense de la langue française. Et moi, je voulais montrer d'emblée les distances que j'avais prises par rapport à cette langue. Et c'était pas le Venaille familial que je mettais en cause, c'était une manière de me détacher de la langue et de la culture française.
On voyait les choux, la mer, qui fonçait la tête la plus.
On se retrouve Arnaud Bertina, Jean-Patrice Courtois, François Baudard, qui ont pris plein de notes en écoutant cette longue archive du Bon Plaisir. Donc on se retrouve sur ces notes de Arnaud, hein, le flamand, l'enfant d'Ostende. Alors il y a évidemment plein de choses dans cet entretien qu'on vient d'écouter qui nous ramènent aux différentes obsessions de Frank Venaille. Je voudrais revenir peut-être dans un premier temps sur cette idée du mensonge, alors qui vraiment occupe une place considérable et prend des formes et des enjeux tout à fait différents. Mais ce mensonge affirmé tout à l'heure par Venaille, hein, né à Ostende, né à lui-même ou né de lui-même, comment est-ce qu'il faut entendre cette décision-là ? Qu'est-ce que ce mensonge ou cette trahison aussi, pourquoi pas, hein, c'est selon, va permettre à son écriture comme à sa vie. Jean-Patrice Courtois.
Je dirais que...
François Baudard, de toute façon vous aurez la parole
je pense
tous les deux.
C'est une sorte de figure de rhétorique chez lui, c'est le mentir vrai. D'ailleurs il avait beaucoup d'estime pour Aragon, et donc il a su se servir de cette façon de nier tout ce qui passe derrière lui pour se recréer à chaque fois. Et chaque livre, à mon sens, hein, fonctionne de cette façon. Mais ce qui est très intéressant dans cette archive, outre le fait que ça a été fait avec Mathieu, qui était son vieil ami, et voilà, tous les deux ont disparu, c'est que jamais Franck ne dit dans cette archive, et il le dit d'ailleurs assez rarement, la Belgique, les Flandres, c'est contre la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que contre la ligne Maurice sur la frontière tunisienne, il y a le gris des Flandres, l'eau. Il parle toujours de l'eau comme d'une métaphore amniotique, la descente de l'Escaut.
Que vous avez publié hein, aux éditions Obsidian en 1995.
Et je crois que là, c'est très intéressant que dans cette archive, où il s'étend très longuement, où Mathieu lui fait même dire des choses très intimes qui se faufilent quelquefois dans les poèmes, là, il parle en toute confiance. Donc, il dit des tas de choses qui nous sont précieuses à entendre, mais il ne dit pas que c'est parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie qu'il va le plus loin possible du désert pour retrouver autre chose d'une humanité à laquelle il croit, et d'où l'engagement dans le Parti communiste qu'il évoque à plusieurs reprises. Voilà ce qui m'a semblé très intéressant dans ce fragment.
Alors il le dit à demi-mot quand même, hein. À un moment donné, enfin il le dit pas aussi précisément.
Parce que l'engagement dans le Parti communiste, la découverte d'Ostende du Nord, et c'est consécutif à la blessure de la guerre d'Algérie.
C'est aussi quelque chose qui va le lier au paysage du Nord, lui, donc évidemment l'enfant du Faubourg Saint-Antoine, hein, l'enfant de la rue Paul Bert, à l'enfance catholique et triste, ou triste et catholique, je ne sais plus dans quel sens il le dit. Qu'est-ce qui le lie tant à ces paysages-là ?
En fait, ce que ça permet de dire, cette question-là, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont des écrivains de territoire, c'est-à-dire qui s'inventent un territoire. Et là, ce qu'il dit aussi dans le fait de changer sa biographie et d'affirmer Ostende comme lieu de naissance, il le dit de manière très belle et de manière très très explicite. Il dit voilà, c'est se donner tout d'un coup une naissance qui met en branle tous les éléments, donc quelque chose de très spectaculaire, d'une scène grandiose sur laquelle il va pouvoir apparaître, et non pas, comme il dit lui-même, la modestie de la rencontre physique, parce que la rencontre physique peut ne pas être toujours modeste. Il le dit lui-même après, il parle de la joie sexuelle. Donc il y a, mais bref, c'est ce besoin-là de quitter, disons, un corps qui ne serait qu'humain pour s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus terrible, qui va lui permettre ensuite, dans un second temps, d'accéder aussi à la part d'effroi qu'il traque dans ses livres. C'est-à-dire, il parle beaucoup de l'enfance, mais en fait, l'effroi, la peur et la tristesse qui apparaissent dans ces livres, pour moi, ne sont pas exactement ceux de l'enfance. C'est quelque chose d'encore plus, qui remonte encore plus loin dans l'existence, quoi. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'il parle du fœtus, quoi. Il y a quelque chose de plus terrible là-dedans. Et donc, pour le faire entendre, je crois qu'il a besoin de s'inscrire comme ça dans cette scène qui est, comme il le dit, où tous les éléments sont convoqués à Ostende. Mais, et pour revenir à votre question, le fait que ça en fasse un écrivain de territoire, c'est-à-dire cette observation, ce goût pour les éléments, il y a quelque chose qui pour moi est très touchant, parce que on connaît certains écrivains qui se sont dont l'œuvre s'est intégralement structurée autour de cette idée-là. Par exemple, on pense à Claudio Magris qui est devenu voilà l'écrivain d'une certaine partie de l'ancien empire austro-hongrois, de cette région-là, la Slovénie, le nord de l'Italie, l'Autriche, etc. Il y a ça chez Venaille aussi, c'est-à-dire épuiser un territoire, le parcourir dans tous les sens et essayer de le ramener avec tout. de le ramener à l'intérieur du poème. Pourquoi ? Parce que obligatoirement dans ce territoire, dans ces filets-là, vont arriver des choses très impures. Il a cette expression qui est parlant de deux autres poètes. Il dit que c'était des artistes dans l'art de mêler la langue au réel le plus ingrat. Et en fait, ce réel le plus ingrat fait du bien au poème. C'est-à-dire que et chez Venin, il y a ça tout le temps. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut rentrer dans un estaminet, il y a un flipper, etc. Il y a un jukebox avec des chansons, etc. Il y a des marques qui apparaissent, des noms de bière, des marques de de chaussures, je sais pas. Et là-dedans, je pense qu'il y a tout d'un coup cette passion de l'arpentage du territoire, précisément parce que ça allait incroyablement muscler le champ de sa poésie. Et il dit à un moment, toujours là au début de ça, c'est juste après ce que j'ai lu tout à l'heure.
Ça étant le titre, hein, pardon, oui. Peut-être. On comprend pas très bien. Ça étant le titre de.
Qui est un livre qui est paru en 2009. Ouais. Il dit : désormais c'est à vous, écrivain du Nord, d'opérer la liaison avec ceux d'Ombri et de Vénétie. Et ça, ça peut passer un peu inaperçu. Et en fait, je trouve ça incroyable. Ça dessine un axe, donc qui part de, disons, d'Ostende et qui va jusqu'à Florence, peut-être, ou en tout cas jusqu'à Venise, qui est en fait l'axe que prenaient les peintres au 14e, 15e, et qui faisaient comme ça des voyages permanents entre les Flandres et puis l'école italienne. C'est-à-dire, en fait, entre deux formes de langage. Entre le langage du Nord, qui était un langage qui était assez peu religieux à ce moment-là dans la peinture, et puis celui de l'Italie, qui au contraire l'était encore complètement. Et donc, il y a ce va-et-vient comme ça entre des choses très prosaïques du quotidien, et au contraire, ces moments où il approche le sacré, où il approche l'effroi de la vie, l'effroi de la naissance, etc.
Et c'est ce qui donne forme à son écriture.
Ah oui, moi je trouve complètement cette balance-là, on la trouve partout dans Venaille, entre d'un côté le prosaïque et de l'autre côté l'élan lyrique, ou alors d'un côté entre une tension tragique qui vraiment, encore une fois, qui serre le cœur, et des formes de légèreté, l'humour dont on a parlé tout à l'heure, etc. Cette balance-là, pour moi, elle se retrouve aussi dans le fait d'avoir voulu arpenter le territoire comme ça, c'est-à-dire que dans le territoire, on va être face à des paysages, face à des cieux grandioses, face à la beauté des matières, etc. Mais on va être aussi face à un casse auto face aux abords d'un stade, etc. Et à charge pour le poème d'arriver à faire tenir tout ce monde-là dans le même espace. Et c'est pas souvent, parce que souvent les peintres, les photographes, les écrivains font le tri justement là-dedans. C'est-à-dire les écrivains vont avoir comme premier mauvais réflexe de vouloir au contraire ne garder que ce qui sera littéraire là-dedans. Quoi. Alors que dans Venaille, on est en permanence surpris, vraiment c'est de l'ordre de la surprise, dans un verre, de tout d'un coup voir surgir un élément de décor ou un mot qui vont nous sembler très peu poétiques. Et pourtant, avec ça, il produit justement. Et c'est en ça que je dis qu'il y a quelque chose du géant chez lui, c'est que il n'a peur de rien dans l'écriture du poème. C'est-à-dire, il n'a pas peur d'un mot qui va défigurer le poème.
Je crois que vous avez tout à fait raison, François Bonnard, quant à l'arpentage, la géographie dans l'œuvre de Franck. Et c'est vrai qu'on pourrait dessiner une carte du tendre de tous les lieux qui sont attachés à un livre, ou le contraire, de tous les livres qui sont attachés à un lieu. Mmh. Que ce soit Jacques tout Jacques, la bataille des éperons d'or, ou Raleigh mort, tous ont un lieu comme point d'ancrage.
Mmh. Le dernier
qui
aussi.
Qui irradie après le poème. Mmh. Et quelquefois, pour en revenir à ce que disait Franck, quelquefois, il crée une sorte de mythe autour de ce lieu qui, peut-être à ses propres yeux, justifie le livre ou la forme du livre, parce que les livres ont, la forme des livres ont une importance d'un livre à l'autre. Voilà, donc je voulais
vous
suivre dans ce...
Dans L'Enfant Rouge apparaître, il va jusqu'à dire d'ailleurs « Je suis la rue Paul Bert dans l'ouvrage apparaître. François Bonnard, vous en faites même un... Dans votre essai paru en 2005, vous parlez de « moraliste des villes ».
Absolument. En ce sens, je reviens à Rousseau. C'est un Rousseau de quoi qu'on fasse de Rousseau, l'homme de la campagne et de la nature. Rousseau a passé la moitié de son temps dans des villes, notamment Turin, Annecy, Lyon, Paris. Franck, lui, est un homme de la ville, mais c'est un homme de la ville passé au filtre de Baudelaire, c'est-à-dire qu'il cherche dans la ville tout ce que Baudelaire y a déjà trouvé, c'est-à-dire le péché, parce que c'est un aspect qu'on n'a pas abordé encore, sauf en parlant de la sainteté. Mais très souvent dans les livres de Franck, il demande où est Dieu, pourquoi est-ce que Dieu nous laisse comme ça. Donc c'est une interrogation perpétuelle, parce qu'évidemment c'est quelqu'un qui a été formé dans une famille française moyenne, donc catholique, sans doute républicaine, etc., mais qui lui a laissé tous ces éléments pour le constituer, mais avec lesquels il a fallu qu'il se batte, parce que les expériences de la vie, dont la guerre, ont fait éclater tout ça chez lui.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
Jean-Patrice Courtois.
Un des cœurs de son œuvre, c'est le rapport entre le monde verbal et le monde non-verbal. Et ce qu'il arrive à faire, c'est un échange de bons procédés entre les deux. Et pourquoi est-ce qu'il arrive à faire un échange de bons procédés entre le verbal et le non-verbal ? Alors dans ce cas, on ferait entrer les paysages, les étendues, le ciel, la mer, le cosmique, les chevaux dont on n'a pas encore parlé, hein, le tribunal des chevaux, ces fabuleux chevaux enfoncés eux-mêmes dans la terre. Pourquoi ces chevaux particulièrement
Alors pardon, stop, toute petite pause justement. Donc pour reprendre une phrase de François Baudard dans son essai, qu'est-ce que ce cheval hein?
Dans le cheval, il y a d'abord, c'est pas n'importe quel chevaux, ce sont des chevaux réels et concrets qui sont en jeu, et ce sont ceux qui sont dans les Flandres, des chevaux qui ont les pieds dans la glaise et la terre. La fameuse boue et la vase qui est aussi dans la descente de l'Escaut, et qui sont dans ces paysages-là. Ce ne sont pas évidemment des chevaux de course ou des purs.
Dans les mines, surtout.
Voilà, dans les mines, ils sont des chevaux qui ont participé à la vie et au travail des hommes. J'ai presque envie de dire, des chevaux ouvriers. Enfin, des chevaux qui représentent ce monde-là.
Et chevaux qui traversent donc amplement l'œuvre de Venaille.
Ça peut être aussi les chevaux de halage, mais qui sont les chevaux de halage sur les canaux, sur les scots. Ce sont aussi des chevaux ouvriers.
Jusqu'à se dire cheval. Hein.
Voilà, jusqu'à se dire cheval, parce qu'évidemment dans cet échange de bons procédés entre le monde verbal et non verbal, lui-même peut prendre évidemment ses différents masques. Et pourquoi il faut qu'il y ait un échange de bons procédés entre les deux? Mais parce que c'est la vie elle-même qui est un mauvais procédé. Hein, comme il l'a dit lui-même, à partir du moment. Donc il faut répondre à cela. Et je trouve que cette capacité qu'il a eue entre ce monde horizontal, c'est-à-dire les éléments du monde, et un monde plus vertical, c'est-à-dire la profondeur psychique, le lien entre les deux, c'est son invention des formes. Parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais pour le poète Venaille, et le fameux écrire en Venaille dont il parle et qui fait peine aux amis québécois et canadiens, ce qui est très drôle, enfin je trouve, évidemment, parce qu'ils ne sont pas sur le même plan, mais c'est de dire, et de le dire en particulier pour tous ceux qui nous écoutent, c'est l'incroyable variété des formes et des attitudes, je dirais, stylistiques de Venaille. C'est tout à fait unique dans le champ de la poésie contemporaine, où beaucoup de poètes, dans la puissance diverse de la poésie contemporaine, ont travaillé au contraire sur des choses extrêmement, je dirais, périmétrées, précises, formelles, dont on ne sort pas. Regardez l'ensemble de Venaille, il y a du récit, il y a du dialogue, il y a du théâtre, il y a du vers libre, il y a du vers moins libre, entre guillemets, on n'entre pas dans les détails techniques, il y a des proses, il y a des alternances entre les proses et les vers à l'intérieur des mêmes livres, bref, une infinie variété jusqu'au livret d'opéra et jusqu'à cette question-là, qui me paraît importante. Voilà. Et puis, il y a chez Venaille, il ne le cite pas si souvent, mais vous l'avez cité, François Baudard, tout à l'heure. Enfin, c'est Baudelaire, quoi. C'est un...
Il le cite dans L'Enfant Rouge comme étant vraiment le premier, en
voilà. Fait. Évidemment, Venaille est plus Baudelaire que Mallarmé, quoi.
Oui. Et c'est d'ailleurs très intéressant que Franck cite rarement les poètes dans la conversation ou dans un petit coin ici, mais c'est pas quelqu'un qui a... Non. Même s'il a écrit sur Joux ou sur Morange, ça c'est autre chose. Mais il y a des tas d'autres écrivains qui l'ont marqué et dont il parle très rarement. Ça c'est Absolument. Un sujet intéressant.
Alors peut-être un mot justement sur ce rapport aussi conflictuel à la poésie. Alors, on n'aura pas le temps, j'imagine, de parler des revues qui ont été aussi très importantes pour lui. On a évoqué très rapidement les désillusions politique, mais j'imagine qu'il y a eu aussi des désillusions poétique, notamment dans, l'exercice de la revue. Alors, il le dit un petit peu dans l'archive qu'on a entendu tout à l'heure, qu'il ne se présentait pas en poète français, qu'au fond, il se souciait assez peu de la situation de la poésie dans son pays. Et justement, donc, je voulais vous demander si vous pouviez nous éclairer un petit peu justement sur la place qu'il pouvait tenir, qu'il a pu tenir à l'intérieur du monde poétique en France. Je sais que ça a été compliqué pour lui, y compris même le recours à la poésie lui-même. Il le dit d'ailleurs aussi dans, dans l'archive au tout début, lorsqu'il explique, lorsqu'il parle de taper sur la poésie, qu'au fond il tapait sur lui-même. Et puis quand on voit aussi l'évolution de son écriture et de son rapport à la poésie, et le fait qu'il ait mis tant de temps à dire enfin en 98 « je suis le poète Venaille », hein. Voilà, si vous pouviez nous éclairer un peu justement sur cette situation-là qui a été la sienne, lui qu'on a beaucoup rangé au rayon lyrique de façon un peu rapide, hein, et parfois un peu bête.
Rapide, mais pas complètement faux.
Non, non, pas complètement.
D'ailleurs, il dit à un moment, oui, il accepte d'être considéré aussi comme un poète lyrique.
Pas seulement, hein. Alors attendez, je lis juste ce qu'il dit. Il dit... Et cette guerre de l'angoisse, comme on parle de la guerre de 100 ans, dure depuis toujours. Pour ne pas la perdre, je lui ai opposé ce que je savais être ma meilleure arme, l'écriture, sur toute la gamme, avec un brin d'esthétisme, un peu de baroque, une dose d'objectivisme, du lyrisme, enfin.
Il n'a pas été, on l'a dit, il n'a pas été du côté, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler de plus expérimental, mais... Il a été ami avec, y compris, Ocar et Orange Export, et bien d'autres. Donc c'est un petit peu la même attitude que celle que je disais avoir envers lui. C'est-à-dire, je crois qu'il y avait une vraie ouverture, et puis une capacité à rester, je dirais, concentré dans sa ligne, hein, concentré voilà. Dans sa propre ligne. Et cette manière de se concentrer dans sa propre ligne, évidemment, a peut-être... créer une petite marge, en quelque sorte, autour de lui, c'est possible.
Je crois que ça part de modernité, ou d'avant-gardisme, même s'il n'aimait pas cette expression. Elle tient aux deux revues qu'il a maintenues, c'est-à-dire Chorus et Monsieur Blum, qui étaient des revues qu'on peut qualifier d'avant-garde. Et je crois que la part d'avant-garde chez Franck, c'est là, plus que dans son propre travail. Même s'il retrouve d'un livre à l'autre, il retrouve des habitudes, ce qui est devenu d'ailleurs des habitudes de couper des mots, de mettre brusquement une majuscule au milieu d'une phrase, etc. Ça, ce sont les acquis de la modernité. Mais finalement, c'est pas ça qui est important dans l'œuvre de Franck, et qui, ça ne l'était pas pour lui, même si ça comptait pour les lectures. On n'a pas parlé des lectures tout à l'heure, parce que bon, on ne peut pas tout aborder, mais ça avait une très grande importance. C'est quelqu'un qui préparait ses lectures avec une minutie, évidemment, non seulement à cause de l'angoisse, mais parce qu'il savait lire ses poèmes. C'est très difficile d'entendre quelqu'un d'autre lire les poèmes de Franck quand on l'a entendu. Pour Bernard Vagafnik, par exemple, c'était pareil. Il y a des gens qui sont presque les seuls à savoir lire leurs textes. Et la conception graphique d'un certain nombre de livres... nous éclaire immédiatement sur la difficulté qu'il y a à se saisir de ce texte pour le mettre en bouche.
Il y a un très grand raffinement typographique et graphique chez lui.
Arnaud Bertina, peut-être, oui, justement, par rapport à ce qu'on disait, sur une dernière question, oui. Alors sur la poésie, et puis peut-être aussi sur le lecteur de Venaille que vous êtes. Alors vous êtes d'une autre génération, hein, beaucoup, beaucoup plus jeune que Venaille. Est-ce que vous y avez trouvé, et au fond, parce que en discutant un peu avant l'émission, vous disiez à quel point il avait pu compter pour vous. Alors, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, on peut comprendre voilà. Ce qui vous a importé dans son travail. Hein. Qu'est-ce qui vous l'a rendu, j'allais dire, presque nécessaire.
Nécessaire. En fait, tout à l'heure, quand vous avez lancé votre dernière question sur justement sa contestation ou son refus de la poésie, la façon qu'il a dans l'archive d'écarter la poésie, j'ai envie de dire que ce discours-là, on peut l'entendre chez plein d'auteurs. On peut l'entendre chez plein de romanciers aussi qui, pareil, écartent le roman, etc. Et que donc, il a quelque chose d'un petit peu convenu. Moi, j'ai envie de dire que peut-être la réponse à cette question, on la trouve plutôt dans ses livres, et on trouve une réponse toute différente, j'ai le sentiment. Par exemple, à partir d'un petit trait stylistique qu'on ne trouve quasiment plus que chez lui, parce qu'il sonne comme une sorte de vieillerie poétique, c'est le vocatif, le haut avec accent.
Qu'il utilise beaucoup.
Qui est partout dans son œuvre, partout. Là, j'ai juste pris une page au hasard. « Ô des amours vrais, ô gisant, ô agonie des mots ». Voilà, ça on l'a partout. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ce vocatif-là? Ce vocatif, c'est celui de l'invocation, c'est celui de l'adresse à quelqu'un ou à quelque chose. Et ça veut dire quoi? En tout cas, c'est comme ça que je l'entends, tellement l'œuvre est musculeuse et énergique, c'est « vas-y, monte sur le ring ». Je t'attends là, quoi. C'est-à-dire, je vais te combattre. Donc, par exemple, si on peut trouver genre quelque chose sur l'effroi, ô effroi ou ô terreur, c'est viens donc là. C'est-à-dire qu'avec les armes du poème, avec les armes du livre, je suis capable de t'affronter. Et je te fais venir, je te respecte comme ennemi, puisque c'est aussi une sorte de marque de déférence, ce vocatif-là. Et en même temps, c'est je n'ai pas peur de toi, parce que j'ai les armes de la poésie. Et donc, si d'un côté dans l'archive, il est capable de dire voilà, la poésie, tout ça, ça ne m'intéresse pas. En fait, je crois que dans les livres, il y a une confiance absolue dans les pouvoirs de l'écriture, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on renifle quand on lit un livre. C'est-à-dire, on ne sait pas obligatoirement où est-ce qu'il faut trouver cette marque de confiance, mais on le renifle. C'est dans l'air du livre, quoi, on est face tout d'un coup à un auteur qui a une confiance absolue, non pas dans les moyens dont il dispose, mais dans les moyens que permet la poésie ou l'écriture, quoi. Et ça, ça le rend incroyablement fascinant. Donc moi, quand je l'ai découvert, c'est par le livre que François Baudard a publié. Tout à l'heure, il me disait, François, que c'est un livre qui, de manière incroyable, a été, avant qu'il le publie, lui, chez Obsidienne, que c'est un livre qui a été refusé, hein, La Descente de Lescaut. Moi, quand j'ai lu La Descente de Lescaut, c'est peut-être 5 ans après sa parution, donc disons en 2000, j'ai 25 ans, et je lis ce livre en ayant le sentiment de lire un classique. Mais je le dis réellement parce que ça, en fait, ça m'arrive très très peu. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est avec Terminus Radio d'Antoine Volodine, qui est un roman. Et au bout de 200 pages, j'avais vraiment l'impression de lire un classique, c'est-à-dire de lire un livre qui a la même puissance que, je sais pas moi, que Madame Bovary ou La Chartreuse de Parme. Et ben là, La Descente de Lescaut, j'avais ce sentiment-là. Et quand j'ai réalisé que c'était un livre qui était paru juste 5 ans avant, j'étais vraiment très très surpris, quoi. C'était, en fait, c'était un livre contemporain. En disant un classique, je l'envoyais pas dans le passé, hein, mais il avait l'évidence d'un classique. Donc ça, c'est très étonnant de se dire, tiens, je suis le contemporain d'un livre qui sera encore lu dans une centaine d'années. Et ensuite, il y a les raisons que je disais, c'est-à-dire tout à l'heure, effectivement, quoi. C'est-à-dire ce mélange entre prosaïque et quelque chose de plus précieux, disons, peut-être, qui me touche beaucoup parce que je sentais que dans mes propres désirs d'écriture, j'avais les mêmes inhibitions, c'est-à-dire j'étais gêné de la même manière par le fait d'intégrer quelque chose de très prosaïque à l'intérieur du texte. C'est-à-dire j'étais encore dans un désir d'écriture peut-être uniquement précieux et pas encore capable de ne pas avoir peur de ce qui va déchirer la page. Et là, je trouvais chez lui cette espèce d'incroyable tranquillité, cette espèce d'incroyable force qui lui permettait de n'avoir peur de rien dans l'écriture, quoi.
Je crois qu'il y aura un travail à faire sur l'usage des O et des A chez Franck. Le O plutôt optimiste et le A plutôt pessimiste,
Oui, ah, ça.
Tu te... Alors, peut-être qu'avant qu'on se quitte, je ne sais pas lequel de vous voudra bien nous lire, peut-être justement un extrait de La Descente de Lescaut, comme on en a beaucoup parlé.
Je vais lire.
Jean-Patrice Courtois.
Chaque nuit, une invisible main déversait de la boue sur les berges du fleuve et, impuissant, corps traversé de spasmes d'angoisse, j'assistais à ce lent travail, cet incessant combat d'une matière mauvaise et noire. Je me tenais debout, préférant l'anxieuse immobilité, cherchant vainement à voir, comprendre, saisir le sens profond de ce geste tellurique. Lorsque, chaque nuit, ces longs doigts invisibles à tous laissaient glisser dans l'eau ce dépôt d'abjection minérale, semblant grouillé d'animaux, que dis-je là? D'êtres remplis d'une misère profonde, s'accouplant, forniquant, se repaissant des plus faibles d'entre eux, les plus misérables. Et l'eau vibrait, tremblait, tentant de fuir, de s'échapper, d'élargir son domaine vers des terres plus humaines. Comme je ressentais cette douleur, et combien de fois me suis-je surpris à prendre parti, haïr même cette matière noire et mauvaise. Pourquoi, et d'où provenait mon incapacité à prononcer ces mots simples, vase et boue?
Merci. Arnaud Bertina, François Baudard, Jean-Patrice Courtois, merci à tous les trois pour cet hommage rendu à Franck Venaille. Et je ne peux que encourager les auditeurs à le lire ou à le relire. C'est la fin de cette émission que je vous laisse conclure entre vous et sans moi. Alors bon après-midi à toutes et à tous.
Quand tu as parlé du cheval ouvrier, en fait, c'est un peu comme ce que disait François en disant qu'on pourrait faire une étude sur les O et les A. On pourrait peut-être déplier énormément de choses à partir de ce que tu disais sur le cheval ouvrier. Oui. Parce que pour moi, c'est si cette image, elle est peut-être aussi obsédante pour lui, c'est parce que c'est sans doute une image de la vie humiliée, en fait. Vie de l'homme ou vie de l'animal, peu importe, la vie humiliée. Et en fait, ça, c'est fou comme aussi, ça pourrait être une piste. C'est-à-dire traquer chez certains auteurs, et c'est pas si fréquent que ça, paradoxalement, cette espèce de fascination au sens, non pas euphorique, mais fascination pour la vie humiliée. Par exemple, moi j'avais été très marqué dans Malcolm Lowry, il y a des animaux qui meurent. Par exemple, il y a un moment, il y a un ivrogne qui récupère un petit chiot. Et en fait, comme il est ivre mort, il s'endort dessus et donc il le tue. Et il y a une sorte d'effroi. Ou alors il y a un oiseau qui tombe d'un cargo et qui se noie dans les eaux du port. Et le marin est en larmes de voir son oiseau mourir comme ça. Et chez Volodine, c'est pareil. Il y a une espèce d'effroi devant comment les machines politiques peuvent humilier justement l'homme, écraser le rêve. Et moi, j'ai le sentiment chez Venaille que cette image du cheval, qui est pas du tout, par exemple, le cheval qu'on trouve chez Claude Simon, qui était très obsédé aussi par les chevaux, mais c'est pas du tout le même. Chez Simon, c'est plutôt pour la sensualité du cheval, disons. Alors que là, effectivement, comme tu le disais, soit ceux qui sont des chevaux de trait, soit ceux qui sont dans les mines, Venaille dit il fallait les sortir de la mine une semaine par an pour qu'ils deviennent pas fous. Pour moi, c'est ouais, cette image de la vie humiliée qui fait souvent la trace aussi des grands écrivains. Quoi. C'est cette espèce d'immense tristesse devant l'humiliation de la vie.
Tu as raison de rappeler une chose qu'on n'a peut-être pas eu le temps de dire, c'est un auteur politique et critique.
Ah oui. Oui, voilà,
un auteur politique et critique sur la vie humiliée, comme tu dis, c'est-à-dire une critique de la domination, et puis sans doute une critique de la domination qui du coup se rejoint avec l'archaïque et le tellurique aussi, avec une vie encore plus profonde qui ne peut parfois devenir que cette vie écrasée.
Oubliez qu'il a été très marqué par la lecture de Dietrich.
Ah d'accord.
Ah oui. Donc on peut retrouver là quelque chose qui nous donne des clés pour comprendre cet attachement aux êtres humiliés. C'est les êtres, parce que hommes et animaux, pour lui c'est tout un, puisqu'il dit très fréquemment au travers ses livres qu'il faut faire parler en nous notre part animale. Ça dit beaucoup de choses. Alors le cheval flamand boulonnais, enfin cheval du Nord, va être, disons, à la fois avatar de Venaille lui-même et métaphore, effectivement, de l'humiliation, du labeur, mais aussi du courage, de la force. Il y a toujours chez lui une part sombre et une part lumineuse, autant que le ciel des Flandres est lumineux, mais lui le voyait souvent lumineux. Et je crois que ça, c'est très important. Il faudrait évidemment avoir plus de temps pour parler de ça, parce que ça traverse quand même toute son œuvre. Ouais. Il parlait dans ce qu'on a entendu tout à l'heure à Ostende. Il appelle les oiseaux, les mouettes, les cras, leur donne un nom.
Il y avait dans l'essai que vous avez fait paraître, François, il y a je me souviens d'une toute petite anecdote qu'il raconte. En fait, il est accueilli par des journalistes du Nord, je sais plus si c'est un parti française ou belge, et qui lui disent comme première question, alors Franck Venaille est toujours communiste? Et en fait, dans le fait de rappeler cette anecdote, pour moi, il y a quelque chose un peu de narquois chez lui, et en même temps aussi pareil de combatif, quoi. C'est-à-dire, oui, toujours communiste, quoi. On entend presque sa réponse. Quoi,
oui, on peut dire en un mot très bref, c'est pas parce qu'on a quitté le Parti communiste qu'on n'est plus communiste.
Oui, voilà, exactement, c'est ça.
C'est un homme de combat, voilà, jusqu'à son dernier souffle, il a combattu.
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Fabien Capel pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Arnaud Bertina, Jean-Patrice Courtois et François Baudard. Vous trouverez une sélection d'ouvrages de Franck Venaille à lire, à relire sur le site de l'émission, à réécouter ou podcaster sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique de Nicolas Martin.